A priori, les informations qui viennent de la région sont contradictoires. Il y a de la propagande un petit peu dans les deux côtés, du côté des terroristes et du côté des Algériens. Mais effectivement, les événements permettent de tirer quelques premières conclusions. La première, c'est que on ne peut pas monter une action commando de ce type sans qu'elle soit mûrement réfléchie, préparée et reconnue. Donc, je pense que l'excuse qui a été donnée, nous attaquons en réplique à l'action des Français, est complètement fausse, puisque c'était certainement un coup de main qui était prévu dans les cartons, je dirais, depuis de longues semaines.
Quel est au final le message en ce moment qui est en train de faire passer les djihadistes, ACMI, Al-Qaïda au gouvernement algérien?
Bon, je ne pense pas qu'il fasse passer un message particulier aux Algériens. Je pense surtout que les terroristes, donc, qui sont très actifs au nord du Mali, ont fait deux erreurs majeures. La première erreur majeure, ça a été justement de tenter de faire une descente rapide sur Bamako. Ils pensaient que la communauté internationale en général, et la France en particulier, ne réagirait pas assez rapidement pour les empêcher de prendre la capitale. Or, ça a été une erreur, puisqu'ils ont rencontré la ténacité de la France dans ce domaine. Et en plus, ils ont prêté le flanc à une offensive classique où ils n'ont pas l'avantage. La deuxième erreur, c'est effectivement d'avoir déclenché une opération terroriste d'envergure sur le territoire algérien. Et il fallait être fou ou suicidaire ou les deux pour lancer cette affaire, parce que on sait très bien comment réagissent les forces de sécurité et politique algérienne, qui ne négocient jamais avec les terroristes.
Est-ce que cette prise d'otage en Algérie, c'est également un coup dur pour le gouvernement français? Est-ce qu'en tout cas, il pouvait s'attendre à une réaction des islamistes dans cette région qui, on le sait, est quand même très instable?
Les menaces qui pèsent sur les intérêts français proférées par AQMI et autres mouvements terroristes ne datent pas d'hier. Donc, depuis très longtemps, Drogdel, le chef d'AQMI, a menacé la France de la frapper au cœur. Mais je l'ai dit, entre une propagande et puis ce qu'on peut faire vraiment, il y a une différence. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je pense que sur le territoire français, voire européen, ils ne peuvent pas lancer une action coordonnée. Évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'un loup solitaire du type Merah qui, tout d'un coup, saisissant ce prétexte, commence à tirer dans la foule. Mais bon, c'est des gens qui sont peu professionnels et qui feront peu de dégâts. Par contre, à l'étranger, effectivement, nous craignons beaucoup des mesures de rétorsion contre les intérêts français et là, internationaux, je dirais, parce que ce sont des cibles qui sont plus faciles, plus à portée, de différents groupes terroristes implantés dans toute la région.
Cette crise peut dégénérer en crise, disons, internationale, ou tout du moins se propager toujours dans le Sahel, peut-être au Niger. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres attaques de ce type? C'est probable.
Alors c'est possible, mais de toute façon, c'est pas nouveau non plus. Depuis que le nord du Mali est soumis aux terroristes, la grande crainte de toutes les autorités, c'est qu'il y ait une propagation. Il y a déjà eu d'ailleurs une liaison qui a été effectuée entre des groupes de Boko Haram, la secte bien connue au Nigeria, et le Sahel, puisque une centaine de combattants avaient été signalés, je crois, à Gao. Donc il y avait déjà une internationalisation un petit peu du conflit. Donc le risque est toujours présent. Cela dit, il faut tout de même limiter l'ampleur de la menace, puisque ce sont uniquement quelques centaines de combattants bien entraînés qui sont la menace. Bon, bien sûr, appuyés par un certain nombre de jeunes recrues enthousiasmés, mais qui n'ont pas une valeur opérationnelle significative. Donc, je dirais que la menace est là, mais elle n'est pas rédhibitoire.